There is just an announcement before we carry on.
Avant de continuer, nous avons une annonce à transmettre. Nous allons avoir une rencontre de coéquipiers à la mission le 31 octobre. Et au cours de cette réunion, il sera proposé une modification de l'association. Et pour ceux qui souhaitent prendre connaissance de changement qui est proposé, alors vous pouvez prendre contact au bureau avec Madame Elisabeth Fermac, qui vous donnera les documents. Donc c'est une réunion, on va dire, pour les membres de l'association. Alors, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue, en particulier vous tous qui avez bravé le temps froid et la pluie, mais ce qui n'est pas surprenant pour nous ici à Cisabantou à cette époque de l'année. Mais nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui suivent la réunion à distance partout dans le monde. Alors, prions encore. Père Céleste, nous voulons te remettre ces instants entre tes mains. Prends cela et fais-en ce que toi, tu désires. Que la vérité, la lumière de ton évangile puisse être diffusée au travers de ce message. Que des âmes puissent être arrachées des mains, des griffes de Satan. Et que nous puissions être mis au défi de marcher avec toi, de marcher au plus près de toi. Amen. Il y a aussi une autre annonce, à savoir des fiançailles la semaine prochaine. Et ce sera Pumlani Gubane et Notando Zulu, deux jeunes. Donc dimanche prochain. Et vous vous rappelez, il y a quelques soirs en arrière, nous avons dit au revoir à certains frères qui nous ont visités depuis l'Europe. Et nous avons été bénis que certains d'entre eux soient restés quelques jours de plus. Mais le temps est aussi venu pour eux de repartir. Alors nous voulons proposer à notre frère Hans Hertel, qui repart en Allemagne, s'il veut s'avancer et nous adresser quelques paroles de salutation. Bonjour. Salutations dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salutations aussi de notre assemblée à Berlin, en Allemagne. Et nous sommes très reconnaissants pour le temps que nous avons passé parmi vous. 4 semaines qui ont passé si vite. Nous sommes aussi reconnaissants auprès du pasteur Erlo Stellegen, comme nous l'appelons affectueusement Oncle Erlo, d'avoir pu le voir, d'avoir pu même nous entretenir avec lui brièvement. Il n'y a rien que nous ne pouvons prendre comme dû. Et donc, nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons expérimenté et ce que nous avons vu au cours des 4 dernières semaines. Et du fond de notre cœur, nous sommes vraiment reconnaissants que nous ayons été accueillis ici comme à la maison. Et maintenant, il y a quelque chose sur mon cœur que j'aimerais encore partager. C'est que aussi Dr Albi a partagé lors du départ de nos deux autres frères jeudi soir. Dr Albi a partagé quelque chose qui a touché mon cœur. Et ce dont il a parlé, il a mentionné l'existence de différentes cultures. Et effectivement, on peut dire que nous, les Européens, nous sommes différents des Africains. Mais une chose, c'est que nous avons expérimenté ici que le Seigneur rassemble les personnes et fait tomber ces barrières, brise ces frontières, ces barrières entre les cultures. Et cela m'a rappelé la parole que l'on trouve dans Colossiens 3, versets 10 et 11, donc dans la lettre aux Colossiens 3, verset 10. En Colossiens 3, verset 10, « Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Verset 11, « Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. » Donc, nous pourrions rajouter le nom de nos nationalités, de nos origines, ici, dans la suite de ces versets. Alors, laissez-moi un peu de temps pour partager quelque chose de ma vie passée. J'ai moi-même grandi dans un pays dirigé dans un régime communiste. Et avant que je n'étudie à l'université, Et durant donc ces études, j'ai eu à, lors d'un de mes derniers examens, à faire une rédaction philosophique sur le communisme. Donc une rédaction sur la rédaction sur donc le régime, et le sujet était en rapport avec le nouvel homme. Et je dois reconnaître que la philosophie ou ce genre de choses ne m'intéressaient guère, mais c'était un examen obligatoire, donc il a fallu que je disserte. Et plus tard, j'ai compris ce que les communistes avaient fait. Ils ont pris les principes que l'on trouve dans Acte 5, les principes de l'Église primitive, où nous lisons dans Acte 5 comment les personnes ont apporté leurs biens et ont partagé avec tous les autres. Tous les biens étaient mis en commun. Et ainsi, chacun avait ce dont il avait besoin. Donc mon point est que les communistes ont, on pourrait dire, copié cela, mais ils ont laissé en dehors le plus important. Ils ont enlevé Dieu de l'affaire ou de cette manière d'être. Et donc, comme nous le savons, cela a lamentablement échoué. Et c'est ce qu'on ce que l'on constate aussi dans la vie de personnes qui ont connu Dieu, mais qui à un moment donné ont enlevé Dieu de l'équation de leur vie. Et c'est ce que nous avons à nouveau expérimenté durant ce temps que nous avons passé ici, à savoir qu'il nous faut nous consacrer, tout donner au Seigneur. Et alors il n'y a plus grec, plus romain, on pourrait dire plus d'allemand, d'européen, d'africain. Mais Christ alors est tout et en tous. Donc, merci beaucoup pour l'amour que vous nous avez démontré, pour tout ce que nous avons expérimenté et vécu durant ce temps ici. Je crois hier ou avant-hier, quelqu'un m'a dit: est-ce que vous avez pu recharger vos batteries? Et je dois dire oui, nous avons effectivement. Mais ma prière est que cette coupe qui a été remplie jusqu'au rabord ne se vide pas au bout d'un certain temps. Mais que cette coupe devienne une source qui déborde avec des sources d'eau vive, avec des fleuves d'eau vive. Parce que aussi, également en Allemagne, le sol est terriblement sec. Et nous apprécions, nous apprécierons vos prières. Et alors que nous rentrons à la maison, sachant que nous avons aussi une maison ici, Merci pour votre exemple. Et nous avons déjà, nous attendons avec impatience de revenir. Si le Seigneur ouvre la porte et permet que nous revenions vous visiter. Encore un point qui me vient à l'esprit avant que je ne quitte ce pupitre. Nous sommes reconnaissants aussi d'avoir pu visiter certaines personnes de couleur noire, nos frères et sœurs noirs. Et là aussi, j'ai pu constater que ce n'est pas une question de couleur de peau, de race. Ce qui est plus important est de savoir si le Seigneur agit et œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Parce que il peut y avoir des conflits bien plus importants entre personnes de même couleur que entre personnes de couleurs différentes. Et donc nous sommes reconnaissants. De rentrer à la maison. Merci beaucoup. Merci. Merci à notre frère. Cela me rappelle des paroles que Oncle Erlo nous a données. Chaque fois que des gens quittaient la mission pour rentrer chez eux, il avait l'habitude de dire « Dieu n'est pas limité par l'espace et par le temps. Dieu est présent partout dans le monde. Donc où que vous vous trouviez, Dieu est présent. » Nous disons aussi au revoir à Oncle Fernie, Tante Christine, qui étaient parmi nous quelque temps et qui vont retourner en France. Certains d'entre nous avons eu un temps merveilleux. Une équipe est allée quelque temps au Mozambique. Et c'était un temps très béni. Et après que nous soyons partis, le lendemain que nous soyons partis, un jeune homme est venu à la mission, amené par sa mère, donc là-bas à Zavora, la clinique que nous avons au Mozambique. Et alors, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as besoin? Es-tu malade? Il a dit non, je ne suis pas malade, mais j'ai besoin de conseils. Je veux parler avec quelqu'un. Est-ce que je peux parler avec Oncle Mario? Et peut-être qu'un de ces prochains soirs, nous pouvons montrer des photos. Les gens, mes amis, les gens ont soif de l'Évangile. C'est comme s'ils boivent chaque parole comme de l'eau. Le jour suivant, donc c'était après que nous soyons repartis, donc le jour d'après, un autre homme s'est présenté. Il a dit, je suis chargé par mes péchés. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut prier pour moi? Le jour suivant, oncle Mario, on lui a demandé s'il pouvait être présent lors d'un rassemblement où le ministre de la Santé du Mozambique serait aussi présent. Et alors on lui a donné la parole lors de cet événement. Et à la fin de cette réunion, donc, le ministre s'est levé pour donner une allocution. Et une des choses qu'il a dit, et il a dit, vous, notre peuple, nous plaignons, nous tout constamment, nous réclamons des choses au gouvernement, mais prenez exemple sur Doctors for Life et voyez ce qu'ils ont accompli avec ce qu'ils ont. Jamais ils ne demandent de l'aide, jamais ils ne réclament des choses. Et regardez, ils ont un radio, un appareil radio. Donc, pour ceux qui travaillent, qui sont à la clinique là-bas, c'était un encouragement, comme un rafraîchissement. Donc, priez, continuez à prier pour que l'évangile puisse continuer à brûler dans leur cœur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais passer d'un point à l'autre, différents points que je voulais partager.
Let's just bow our heads again and pray.
Et alors, avant de continuer, nous voulons encore à nouveau prier. Père Céleste, nous inclinons devant toi en dépendance, en totale dépendance à toi. C'est pourquoi, Seigneur, s'il te plaît, souffle ton esprit au travers des paroles simples qui vont être prononcées. Et par ta lumière céleste, éclaire nos cœurs, éclaire notre esprit, afin que nous puissions voir les choses comme toi, tu les vois. Amen. J'aimerais lire un passage qui a différentes facettes. C'est un passage qui démontre comment un homme de Dieu, un prophète, qui n'avait pas peur d'annoncer la vérité, même s'il était seul, même s'il était en danger d'être emprisonné, mais il a dit la vérité, l'a proclamé la vérité. Et en même temps, j'aimerais parler d'un homme qui a vécu de manière païenne, mais qui d'une manière ou d'une autre a essayé d'intégrer Dieu dans sa vie. Et donc cette personne était Akab. Et finalement, j'aimerais parler d'un troisième homme qui a vécu une vie à peu près droite, mais qui, sur la fin, a été confus et s'est égaré. Et il s'agissait du roi Josaphat. Donc on va lire différents passages, alors excusez-moi si nous lisons vite. Le premier passage se trouve dans 1 Roi, verset chapitre 22. Donc 1 Roi, verset chapitre 22, et à partir du verset 2. Donc 1 Roi 22, verset 22. Dans la version du Semeur, dans le courant de la troisième année, Josaphat, le roi de Juda, rendit visite à Akab, le roi d'Israël. Verset 3. Or, celui-ci avait dit à ses ministres, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous ? Et pourtant, nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » verset 4, quand Josaphat vient le voir, Akab lui demanda donc, « Viendras-tu attaquer avec moi Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « J'irai avec toi, mes troupes iront avec les tiennes et mes chevaux avec les tiens. » Alors souvenez-vous, Akab a été probablement l'un des rois les plus païens que le royaume d'Israël n'ait eu. Jézabel était sa femme. Donc, de l'autre côté, Josaphat, le roi de Juda, était un homme qui craignait Dieu. Mais Josaphat a donc décidé de visiter Akab parce qu'ils étaient en relation familiale. Leurs enfants s'étaient mariés entre eux. Mais ça n'a pas pris longtemps pour que Akab emmène ou tire Josaphat dans une guerre. Ce n'était pas seulement à cause du lien familial, mais Josaphat s'est retrouvé dans une guerre avec Akab, qui était pourtant un roi païen. Donc continuons, verset 5. Josaphat ajouta, « Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. » Donc, Josaphat était un homme de Dieu et on pourrait dire naturellement. Il voulait savoir ce que Dieu pensait de cette aventure. Mais mes amis, prends garde. Prends garde. Parfois, le diable est affairé à tromper les enfants de Dieu, même en y peignant le visage de Dieu sur quelque chose. Donc, lisons verset 6. Le roi d'Israël rassembla les prophètes, qui étaient environ 400, et leur demanda, « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Les prophètes répondirent, « Vas-y, le Seigneur la livrera au roi. » Donc, Akab, en étant un homme, un roi païen, il était satisfait. 400 prophètes qui lui disent « Vas-y, donc l'affaire est réglée, on y va. » Mais Josaphat, en ayant été un homme qui craignait Dieu, avait un inconfort. Il n'avait pas la paix, il n'était pas confortable avec ce que ses prophètes annonçaient. Il avait une insatisfaction avec la démonstration de ces 400 prophètes. Voyez, vous pouvez venir à l'église comme le prophète, comme le roi Akab est venu auprès des prophètes. Et pourtant, tu ressortira de l'Église avec un message qui n'est pas bon. Parce que ta foi, spirituellement, tu es émoussé. Mais Josaphat, lui, on voit ici, il était encore aiguisé, il n'était pas insatisfait, pas confortable. Et nous voyons au verset 7, « Mais Josaphat insista, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Ah, mes amis, vivre dans la crainte de Dieu, en obéissant à Dieu, est quelque chose de critique pour toi et pour moi. Il est absolument critique d'entendre la voix de Dieu. Juste en lisant la parole de Dieu ne va pas nécessairement t'aider. Si tu ne vis pas une vie qui craint Dieu et qui, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Verset 8, le roi d'Israël lui répondit, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon. Il ne m'annonce que du mal. Il s'agit de Miché, fils de Yimla. » Josaphat s'écria, « Que le roi ne parle pas ainsi !» Verset 9, « Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus vite Miché, fils de Yimla. » Alors, écoutez ce qu'un prophète de Dieu, qui est sans peur, qui n'a pas peur d'annoncer la vérité, quoi que ce que le roi ou le monde dise. Continuons verset 13. Donc, verset 13, chapitre 22. Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Miché lui dit : Tous les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu ferais bien de parler comme eux et de lui prédire aussi le succès. Verset 14, Miché lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que l'Éternel me dira. » Mes amis, reste éloigné de prophètes qui ne sont pas prêts à transmettre ce que Dieu leur demande et qui ne sont pas affectés par ce que les hommes disent. Et donc nous lisons comment Miché est venu auprès de Josaphat et d'Akab. Verset 17, « J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Quelle était la réaction à ce que Miché a annoncé ? Si vous permettez encore, nous pouvons lire encore quelques versets. Verset 24. Donc c'était après que Miché ait parlé. Alors, verset 24. Alors Sédécias, fils de Kenana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Miché et lui demanda, « Par où l'Esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Donc, rappelez-vous, tous les prophètes avaient annoncé, vas-y, tu réussiras. Et Miché, au contraire, avait annoncé que les Israélites étaient disséminés sur les montagnes et qu'ils étaient comme des brebis perdues. Donc, Sédécias a dit à Miché, par où l'Esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? On pourrait dire, par quel autre esprit as-tu entendu de la part de Dieu? Et Miché lui a répondu, verset 25, tu le sauras le jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Et qu'est-ce qu'a fait Akab? Lisons verset 26. Aussitôt, le roi d'Israël, Akab, ordonna à l'un de ses officiers, « Arrête Miché, emmène-le à Amon, le gouverneur de la ville, et à mon fils Joas. » Tu leur ordonneras de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. Verset 27. Verset 28. Miché s'écria, « Si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Écoutez, vous tous les peuples. » Je ne vais pas lire plus, nous avons déjà beaucoup lu. Mais si vous lisez l'histoire, ils sont partis donc à la guerre. Et Josaphat, le roi qui craignait Dieu, on pourrait dire, à un moment donné, son esprit était éteint et il n'a pas écouté ce que le prophète Miché a annoncé. Et donc, il s'est quand même résolu d'accompagner Akab vers la guerre, à la guerre. Et alors, lorsqu'un roi accompagne Akab pour faire la guerre, alors ce n'est pas seulement lui, mais tout son peuple, toute son armée a suivi à cause de la décision d'Akab et la décision de Josaphat. Et nous lisons, on peut lire comment la bataille a fait rage. Et verset 32. Et voilà, en fait, le verset sur lequel je voulais vraiment parler. Verset 32 du chapitre 22. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est certainement lui le roi d'Israël. Et ils se dirigèrent sur lui pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. Quand les chefs des chars se rendirent compte que ce n'était pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. Un soldat syrien tira une flèche de son arc au hasard. Elle atteignit le roi d'Israël à la jointure entre les pièces de la cuirasse. Alors le roi cria au conducteur de son char, « Fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé. » Verset 34. Et ainsi, de manière certaine, Akab est ainsi mort dans la bataille. Vous savez, Akab me rappelle bien des chrétiens d'aujourd'hui. Il avait vécu une vie païenne, sans Dieu. Il a laissé sa femme adorer l'idole de Baal. Il l'a laissé faire tuer les prophètes de Dieu. Il a lui-même fait tuer Naboth pour lui prendre sa vigne. Et pourtant, dans ce passage, nous voyons qu'il était là, assis et tout à fait confortable avec ce que les prophètes annonçaient. Il en est de même aujourd'hui. Chacun, les chrétiens, vivent n'importe quelle vie, n'importe comment, et pourtant, le dimanche matin, ils sont assis à l'église, comme si de rien n'était. Mais on continue à boire, à se saouler. Les jeunes gens continuent à mettre des jeunes filles enceintes en dehors du mariage. Mais pourtant, ils sont là, assis dans l'église. Peut-être même qu'ils chantent dans la chorale de l'église. Et les pauvres grands-parents, ils s'occupent des petits-enfants parce que leurs enfants, leurs filles, a un enfant après l'autre, de différents pères, parce que elle a toutes sortes d'aventures avec différents hommes, et alors c'est la grand-mère qui récupère les petits-enfants et qui s'occupe d'eux. Quelle situation pathétique et sans espoir, n'est-ce pas? C'est une situation pathétique dans laquelle l'Église de Christ se trouve aujourd'hui. Ce sont les grands-parents qui s'occupent des bébés de leurs propres enfants. Ils sont obligés d'être là parce que leur vie, leurs enfants, mènent une vie débauchée et tombent enceintes avec un enfant après l'autre. Mais quand je lis, j'écoute cette histoire que nous avons lue, il y a quelque chose de très dangereux dans cette histoire, particulièrement pour Josaphat. Et j'aimerais me focaliser principalement sur Josaphat. Souvenez-vous, il est dit que Josaphat était un homme qui craignait Dieu. Et il s'est retrouvé dans une guerre avec Achab. D'une manière ou d'une autre, il a été trompé, il a été confus quand il a entendu les paroles des prophètes et même les paroles du prophète Michée. Alors, chers amis, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, y compris moi, nous faisons face avec des situations, avec des scénarios, avec des décisions, ou alors nous devons décider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, qu'est-ce que le diable tente de me faire faire. Et c'est si facile d'être alors trompé. Laissez-moi de vous donner un exemple. Il y a une nouvelle tendance qui est en train de prendre l'Occident comme une vague. Donc c'est la tendance qu'aujourd'hui nous avons que lorsqu'un enfant naît, on ne peut pas savoir si c'est vraiment un homme ou un garçon ou une fille. Il peut être l'un ou l'autre. Il peut être garçon ou fille, même si l'apparence physique est d'une certaine manière. Et ainsi, cet enfant, lorsqu'il grandit, lorsqu'il grandira, il pourra alors décider s'il veut être vraiment un garçon ou vraiment une fille ou l'un ou l'autre. Donc ainsi, s'il est un garçon, s'il ne veut pas devenir un homme, alors il peut aller vers le docteur qui lui donnera des piqûres, un traitement pour qu'il ait des seins qui poussent. parce que dans son cœur, en fait, il ressent qu'il devrait en fait une fille. Mais de même, si c'est une jeune fille, elle peut décider, non, je suis en fait un homme ou je veux devenir un homme. Alors, elle va voir le docteur et alors il peut faire les traitements adéquats pour supprimer les seins et pour faire d'elle un homme. Ainsi, il y a différentes choses que nous lisons, qui apparaissent et que certains médecins, sur lesquels certains médecins écrivent. Il y a même eu des publications scientifiques ou médicales où les gens disent « Non, mais laissons les enfants décider d'eux-mêmes ce qu'ils veulent devenir. » En 2014, le magazine Pediatrics, donc des médecins de pédiatrie, donc déjà, ils écrivaient à l'époque, si vous traitez un enfant et qu'il est satisfait avec le résultat pour devenir un garçon ou une fille et qu'il est heureux, alors c'est une bonne chose. Qu'il se sente bien dans sa peau, alors c'est une bonne chose. 2016-2017, il y a eu plus de publications de similaires où on recommandait, donc ces magazines spécialisés, on recommandait aux médecins, on les encourageait à répondre aux demandes des enfants s'ils veulent choisir de changer de sexe. Mais déjà de ce moment, il y a déjà eu certains médecins qui ont émis un autre avis. Donc je vous ai cité le journal pédiatrique de 2014. L'année dernière, la Cour suprême ou la Haute Cour britannique a pris la décision suivante. Donc c'était l'année dernière. Ils ont dit donc ils ont donc la Haute Cour de justice britannique a émis l'avis que concernant ce sujet d'enfants qui veulent changer de sexe, de genre, un certain nombre d'informations étaient insuffisantes, un certain nombre d'études n'étaient pas sérieuses et n'avaient pas assez de substance. Donc la Haute Cour d'Angleterre a pris la décision, une décision qui aura une conséquence dans bien des pays à travers le monde. Ils ont décidé que en dessous de 15 ans, aucun enfant ne devrait être amené à remettre en question son genre. Et ce n'est pas à l'enfant de décider s'il veut changer. Donc la Haute Cour en Angleterre dit « Si vous voulez faire un enfant si jeune, si immature, alors, il faut, en tant que docteur, vous ne pouvez pas commencer à donner un traitement pour changer le genre d'un enfant. Il vous faut avoir une confirmation, une décision de justice pour procéder à ces traitements. Donc, ce n'est pas au médecin de décider s'il peut le faire ou pas. Et ça n'a pas pris longtemps pour qu'un hôpital de Suède prennent aussi la même décision. Donc, un hôpital pédiatrique en Suède qui fait partie, on pourrait dire, l'hôpital de l'université de Karolinska. Ils ont averti en disant, si vous donnez ces traitements pour changer de genre, ils ont averti les médecins en disant, ces traitements ont des conséquences graves sur les enfants. Premièrement, ces traitements affaiblissent les os et amènent des fractures. Deuxièmement, ces traitements empêchent ces jeunes plus tard à avoir des enfants. Peut-être ils changent d'avis plus tard dans leur vie et alors ils ne peuvent plus avoir d'enfants puisqu'ils ont fait ces traitements. Quatrièmement, ces traitements amène un plus grand risque de cancer. Et donc, c'est, voilà les conclusions de cet hôpital qui dit que ces traitements, sont, on pourrait dire, sont cancérigènes, ou en tout cas favorisent l'apparition de cancer. Parce que ce sont des traitements très forts, par exemple, qui arrêtent qu'un garçon devienne un homme et de même qu'une jeune fille devienne une femme. Donc c'est des traitements qui sont très forts. Et si tu as fait ce traitement pour le reste de ta vie, alors il faut continuer à être traité. Environ tous les 3 mois, il te faut prendre des traitements parce que ton corps réagit et veut toujours retourner au sexe de la naissance, au genre de la naissance. Un autre corps reconnu en Angleterre a écrit la conclusion suivante. L'Institut, donc c'est un institut qui conseille le gouvernement anglais, britannique, qui a dit la même chose. Il y a quelque temps, un autre groupe de médecins a aussi commencé à émettre un avis sur le sujet, savoir le conseil pédiatrique aux États-Unis. Je lis les conclusions et je cite un certain nombre de conclusions par ces personnes. Il y a sa photo, dit Dr Michel Cretella, qui est donc président de cet organisme, ils ont aussi émis. Voilà là ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit. Chaque garçon, chaque cellule de son corps a 6500. J'ai pas tout compris, mais en gros, il y a une part de féminité dans les cellules masculines. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle partie. Non, il y a 6500 différences dans n'importe quelle partie du corps entre un garçon et une fille. Donc dans toutes les parties du corps, il y a des différences. Donc on ne peut pas simplement couper les seins d'une jeune fille en disant « ça y est, maintenant elle est un garçon ». Qu'en est-il de tous les autres changements qu'il faut alors pratiquer dans le corps ? Et de même, on ne peut pas couper les parties privées du garçon simplement en disant « ça y est, maintenant c'est une fille ». Donc voilà ce qu'elle écrit, ce qu'elle affirme. Si une personne lorsqu'une personne vient et demande à ce qu'on ampute un bras sain ou une jambe saine qui est en bonne santé, alors on va arriver à la conclusion que la personne est folle, qu'elle est dérangée mentalement. Ce n'est pas moi qui affirme cela, c'est elle, ce docteur américain qui écrit cela. Et tout d'un coup, nous voulons laisser des enfants changer certaines parties de leur corps qui sont sains, et plutôt que de réagir, certains nombres de personnes commencent à dire « Ah, mais c'est bien, c'est une bonne chose, merveilleux, laissons-les faire. » En d'autres termes, cela n'a pas la réalité biologique, les faits de ce que tu es quand tu es né, n'a plus d'importance. Ainsi, ce qui est devenu important maintenant, c'est ce que tu ressens, ce que tu penses dans ta tête, dans ton intelligent. Voilà ce qui devient important. Et donc, certains médecins ainsi poussent pour qu'on dise aux enfants, non, mais vous pouvez choisir qui vous voulez être. En d'autres termes, si j'ai moi-même 20 ans et que je ressens, je pense que j'ai 60 ans, alors je peux aller et dire je veux être traité comme un homme de 60 ans parce que je ressens que j'ai 60 ans. Et si le médecin répond en disant « Mais nous ne pouvons pas, monsieur, vous n'avez que 20 ans. » Alors, je vais pouvoir répondre et dire « Ben non, je ressens que j'ai 60 ans, donc j'ai le droit d'être traité comme un homme de 60 ans. Donc, j'ai besoin d'une retraite, donc vous pouvez me payer une retraite parce que dans ma tête, je sens que j'ai 60 ans. Donc, vous devez me traiter comme une personne de 60 ans. » Voilà ce qu'il y a derrière tout cela. Il y a plus encore plus que Dr Cretella a écrit. Elle dit, si nous laissons la porte ouverte en acceptant de prendre en compte ce que la personne ressent ou affirme être, alors c'est une porte ouverte à l'illusion. Alors imaginons un garçon qui est dans un corps d'un garçon vient et dit non, moi je ressens que je suis une fille. Alors si nous laissons faire et nous acceptons cela de changer, alors c'est la porte ouverte à l'illusion. Il y a eu récemment une décision de justice en Angleterre qui est importante. Et c'est une décision qui fait suite à une jeune fille qui a décidé de changer de genre. Mais au bout de quelques années, aujourd'hui, elle est insatisfaite de ce changement. Son nom est Kaira Bell. Elle a dit, j'ai pris cette décision quand j'étais ado, adolescente. C'était une décision rapide. Elle dit, aujourd'hui, je suis dans des problèmes parce que je veux redevenir une femme, mais j'ai le corps d'un homme. Et donc, petit à petit, de plus en plus de docteurs élève la voix en disant « Mais attendez, on est dans une folie, cela n'a pas de sens. » Le premier hôpital qui a fait ces opérations de changement de genre, changement de sexe, a arrêté de faire cela. Parce qu'ils ont dit « Les gens qui procèdent à ces changements ont de gros problèmes. Ils tombent dans la dépression, ils sont malheureux, et ainsi cet hôpital a arrêté ses traitements. Et un des docteurs dans cet hôpital un psychiatre a été le premier qui a dit, qui a levé la voix en disant « Je n'aide plus, j'arrête complètement de prodiguer ces traitements à ces jeunes filles et ces jeunes hommes. » Il y a aussi l'hôpital de John Hopkins. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe dans certains endroits ? Au Canada, il y a un criminel très violent et dans sa violence, il agressait les gens. Et alors, quand il est allé en prison, et alors qu'on l'a incarcéré, il a dit « Non, mais j'ai changé d'avis, je veux être femme. » Alors, qu'ont fait les autorités ? Ils ont pris ce criminel qui était connu pour ses violences, et alors ils l'ont incarcéré dans une prison pour femmes, parce qu'il avait émis le souhait, le désir d'être une femme. Est-ce qu'on peut croire à une chose pareille ? Ainsi, cet homme criminel violent, juste parce qu'il a émis le souhait en disant « Non, mais je veux devenir femme », alors on l'a incarcéré dans une prison pour femmes. Que nous dit la parole de Dieu par rapport à cela ? En lisant 1 Corinthiens 6, verset 9. Je dois dire, l'argumentation, le débat, on pourrait dire, entre les experts médicaux et les médecins continue. Et il y a encore des décisions de justice en cours. Alors lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels. Ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Verset 11, chapitre 6 d'1 Corinthiens. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il est écrit dans 1 Corinthiens, il est dit, il n'y aura point de part dans l'héritage du royaume de Dieu pour les pervers ou les homosexuels. Romains 1, verset 26. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. De même, les hommes, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Alors qu'ai-je dit précédemment ? Je vous ai dit ce que certains docteurs disent, certains médecins affirment. Ils disent c'est une bonne chose de changer de genre, d'homme vers la femme, de femme vers homme. Je vous ai aussi donné l'avis d'autres médecins qui donc affirment en disant ce n'est pas quelque chose de bien, cela ne marche pas. Et pour finir, je vous ai lu ce que la parole de Dieu, ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et alors je vous laisse. Je vous laisse. Souvenez-vous du contexte de tout cela. Et rappelez-vous de la décision que Josaphat a prise. Et cette décision l'a amené dans une guerre où il a failli mourir. Et je reviens donc à l'histoire de Josaphat. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas écouté Miché ? Peut-être s'est-il dit, ah, nous sommes une seule nation, Juda et Israël. À l'origine, nous étions qu'une seule nation, les 10 tribus d'Israël et les 2 tribus de Juda. Nous sommes tous, nous croyons tous au même Dieu. Nous sommes frères. Ainsi, nous pouvons combattre ensemble contre le roi de Syrie. Comment est-ce que Josaphat est arrivé à une telle confusion dans une situation où pourtant Dieu a été clair par la parole de Miché? Nous lisons, nous voyons, cette confusion est venue de sa désobéissance à la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne prenons pas à la légère le fait d'être désobéissant à la parole de Dieu. Parce qu'alors, l'Esprit de Dieu ne peut pas pénétrer dans notre esprit. Et alors, on est empêché d'entendre la voix de Dieu, d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Alors, laissez-moi répéter. La désobéissance est la raison principale pour laquelle Dieu retire son esprit. Dieu nous retire son esprit. Nous sommes comme une éponge qui éponge l'eau. Il nous faut écouter et absorber la voix de l'Esprit Saint. Et nous devrions l'intégrer dans nos cœurs à la même manière qu'une éponge absorbe l'eau. Mais si tu prends cette éponge et que tu la mets dans un seau et que cette éponge est pleine d'eau, alors l'éponge ne pourra pas prendre plus d'eau. Alors qu'elle est remplie d'eau, l'éponge, tu as beau la passer sous le robinet, elle ne prendra pas plus, elle n'absorbera pas plus d'eau. Même si tu la plonges dans une piscine, l'éponge n'absorbera pas plus. Tu peux la mettre dans une rivière, l'éponge n'absorbera pas plus. Voilà ce que la désobéissance produit dans ton cœur et dans mon cœur. Tu peux être assis à l'église, tu peux entendre la parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, ne peut pas pénétrer dans ton cœur et se révéler à toi. Alors, que dois-tu faire pour que cette éponge puisse absorber l'eau? Il faut sortir l'éponge et alors il faut la l'essorer, il faut la presser pour que le liquide qui est dans l'éponge puisse sortir. Et voilà ce que Dieu doit parfois faire avec nous, afin que nous puissions entendre sa voix, puissions entendre la voix de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé avec Josaphat. Alors qu'il était au milieu de la bataille, tous les ennemis se sont concentrés sur lui et ils voulaient tous le tuer. Et Dieu, on pourrait dire, l'a pris comme une éponge et l'a serré, l'a pressé, l'a essoré. Alors il a tout d'un coup réalisé dans quelle tromperie il s'est aventuré. Alors mes amis, si Dieu nous met dans des situations difficiles, la raison souvent est pour essorer, presser et faire sortir notre orgueil pour que lui puisse alors prendre la place. Peut-être parfois je me dis, je fais tout ce que Dieu me demande. Mais jusqu'à ce que Dieu me mette dans un endroit où il m'essore, et alors il sépare, et il me presse au point que, comme Josaphat, je réalise alors que je me suis retrouvé dans une situation de tromperie. Nous lisons, il est dit, donc que les chefs des chars se dirigèrent sur lui pour l'attaquer. Donc on pourrait dire les ennemis se sont concentrés sur lui. Il dit, Josaphat poussa un cri. Si vous lisez le passage parallèle dans Chronique, il est dit dans Chronique qu'il a crié à Dieu et alors Dieu est intervenu et a détourné les ennemis. Et alors voilà mon message pour toi et pour vous, cher ami. Est-ce que tu te retrouves dans une situation où peut-être tu es dans risque de perdre ta vie? Est-ce que tu es dans une armée? Tu te retrouves dans une bataille où l'armée est dans une situation où peut-être ils vont perdre la vie? Est-ce que tu te retrouves dans une armée et lorsque tu regardes à droite et à gauche, tu vois des hommes et des femmes autour de toi qui perdent leur vie? Je parle spirituellement, tu les vois mourir spirituellement à droite et à gauche. Et dans ce cas, c'était Josaphat qui a réalisé la crise dans laquelle il était. Il était pourtant le chef, le leader qui a décidé de mettre sa nation dans cette situation. Mais Josaphat est arrivé à un point où il a réalisé « Je suis en train de mourir spirituellement. Cela n'a pas d'importance si je suis entouré de soldats. Cela n'a pas d'importance si Achab est autour de moi et s'il m'encourage et qu'il me dise « C'est bien, Josaphat, continue, tu fais la bonne chose. » Non, Josaphat a réalisé la mort est dans notre camp et nous allons tous mourir à cause de cela, à cause de cette situation. Josaphat s'est retrouvé parmi une armée dans laquelle il n'aurait jamais dû être. Et alors, Josaphat a laissé son orgueil de roi de côté et, comme un enfant, il a poussé un cri en désespoir. Je ne pense pas que Josaphat a crié parce qu'il pensait qu'il allait mourir seul. Mais il a crié parce qu'il a réalisé « Je suis dans la mauvaise armée, je ne suis pas dans la bonne bataille, je n'aurais jamais dû me retrouver dans cette situation. » Et alors, il a laissé son estime de lui-même, il a laissé sa fierté, son orgueil, et comme un bébé sans défense, il a crié. Et voici le choix qui se présente à toi. Meurs avec Akab et le monde. Même si tu dis « Ah, ce sont mes frères d'une manière ou d'une autre, ce sont mes frères et sœurs. » Ou alors, sépare-toi et choisis Dieu. La bataille n'était pas entre Akab et Josaphat. Mais c'était Satan qui cherchait à tuer Josaphat. Ne laisse pas les autres, certains, te dire « Non, mais la bataille est entre Akab et Josaphat. » Regarde autour de toi. Est-ce que les gens autour de toi s'enfoncent et se noient dans le péché ou ont-ils une vie de victoire ? Sur le péché. Est-ce que l'Esprit de Dieu est parmi vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous conduit? Lorsqu'il faut laisser prendre une décision, comme par exemple quand vous avez des enfants qui veulent changer de genre, est-ce qu'alors vous êtes entouré de personnes qui ont l'Esprit de Dieu et qui peuvent aider dans une telle situation? Mes amis, sois un homme. Humilie-toi. Et si tu vois que tu es en train de te noyer dans le péché, alors admets-le et crie. Pousse un cri. Que ce péché soit une rancune, une amertume pour ce que quelqu'un t'a fait, quelqu'un t'a injustement fait. Que ce péché soit le péché, le monde qui entre, qui le compromis avec le monde par l'habillement, par la manière de se coiffer. Alors ouvre les yeux comme Josaphat, en disant, écris comme Josaphat, je suis en train de mourir dans cela. Oui, je crois que Josaphat a certainement crié à cause de la peur de la mort. Mais pour moi, il y avait autre chose dans ce cri. Il a crié à Dieu pour que Dieu ait compassion, lui fasse grâce. Il a crié pour que l'Éternel le secoure, et parce qu'il n'avait pas entendu la voix de l'Esprit Saint. Quel moment béni, quel endroit béni lorsque Dieu te prend et qu'il t'essore, il te presse comme une éponge. Et alors, tu deviens ouvert à la voix de l'Esprit Saint qui peut alors te dire « Un tel, mon cher, cette chose n'a pas sa place dans ta vie. » C'était une situation humiliante pour Josaphat. Le Seigneur Jésus a dit, à moins que tu ne perdes ta vie, tu ne pourras pas la retrouver. Et si tu cherches à sauver ta vie, tu perdras ta vie. Et quel est le premier endroit où tu perds ta vie? Lorsque tu laisses l'Esprit Saint agir dans ton cœur et au point où tu admets et tu te laisses convaincre par l'Esprit Saint que cette chose dans ton cœur est un péché. Alors vas-tu alors garder ton orgueil? Alors que tu vois que tous autour de toi, l'armée de l'Éternel être exterminée, ou vas-tu être comme ce Josaphat qui est allé au point qu'il a admis qu'il avait pris la mauvaise décision, une décision qui a mené la mort de soldats autour de lui. Mes habits, voilà le cri que moi-même je veux crier à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'humilier et à crier à toi. Amen. Révèle les choses les plus sensibles de ton cœur, les plus grands secrets de ton cœur. Amène-les à la lumière. Voilà la manière de crier pour être sauvé. Les choses, peut-être, que tu as honte, les plus honteuses, amène-les à la lumière. Et ne les amène pas à la lumière devant un ami qui va te rassurer et t'encourager dans ce que tu fais. Mais amène-les et partage-les à un homme, une femme de Dieu. Et il n'y aura pas de libération du péché sans justice. Si tu cries, si tu amènes, tu mets à la lumière des péchés devant une personne qui va te dire « Ah, ce n'est pas grave, c'est pas grave. » Alors, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te sauver de cette bataille. Tu ne vas pas en sortir vivant. Apporte ta honte, crie-les et amène-les, mets-les à la lumière devant un enfant de Dieu. Et mes amis, quand vous amenez, quand vous commencez à parler de ces sujets, comme nous avons mentionné, ce fait de vouloir changer de genre, d'un homme devenir une femme devenir un homme, alors tout à coup, la vérité devient claire. Vois ça. Ce que l'évêque du réveil de l'Afrique de l'Est a écrit. Il a écrit, « Si j'étais laissé tout seul pour découvrir ce que est le péché, alors je serais aveugle comme une chauve-souris. » Vous pouvez écouter ce débat, écouter et considérer toute chose, mais alors tu resteras confus. Et il crie, il dit, « Dieu me prend et il m'amène à un endroit où alors il m'essore, il me presse et il met à la lumière, il m'expose à l'amour de Dieu sur la croix du calvaire. » Et ce qu'il écrit, Et c'est là, à cet endroit, que le Seigneur a traité le péché, m'a montré ce qu'est le péché. Et voilà, mes amis, ce qu'est le salut. Le salut vient lorsque tu cries comme Josaphat et que tu exposes tes erreurs, tu les mets à la lumière et alors tu peux recevoir le pardon. Que s'est-il passé avec Akab? Il ne s'est pas habillé comme un roi. Il est allé à la bataille en se déguisant comme un soldat tout simple. Il est dit, nous avons lu, qu'un archer a tiré une flèche au hasard et a touché Akab au point qu'il est mort. Mes amis, mon ami, si tu as vécu comme un enfant du roi, comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas retourner vers le monde, retourner dans le monde en pensant que le diable n'y fera même pas attention. Satan dira à ses démons de te trouver. Et tu tomberas alors encore plus bas dans le péché que les gens du monde. En conclusion, cela me rappelle une autre personne qui a crié un homme qui a crié parce qu'il expérimentait la mort, mais ce n'était pas un pécheur. C'est un homme qui a fait partie de l'armée des hommes parce que son père l'a envoyé. Et Satan a alors oublié tous les autres pour se concentrer avec tous ses démons sur cet homme. Cet homme, cet agneau sans tache, cet agneau de Dieu, qui a été envoyé parmi les hommes, nous qui étions une armée condamnée. Nous étions condamnés et envoyé en enfer ou en route pour l'enfer. Et les hommes ont écouté lorsque Satan les a inspirés à clouer cet homme sur la croix. Et il était là sur la croix et c'est là qu'il a crié à la manière de Josaphat, du roi Josaphat. Il a crié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a même été abandonné par Dieu en faisant partie prenante des ennemis de Dieu, les ennemis à savoir l'homme déchu, bien qu'il était sans péché, sans tâche. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand cet homme a crié, Dieu a entendu sa prière et il a ouvert la porte pour que chacun d'entre nous puisse nous échapper de cette armée en chemin vers la perdition. Il a ouvert la porte pour que nous puissions échapper à la mort et à l'enfer. Dieu a alors répondu à son cri et à sa prière. Alors, toi de même, fais de même. Si tu réalises, je me noie, je suis en train d'être tué par mon péché, alors suis l'exemple Je suis l'exemple du roi Josaphat. Oublie ton orgueil et crie en disant « Seigneur, aide-moi, je suis en train de mourir. » Expose, mets à la lumière même tes plus grandes hontes. Et alors Dieu t'intégrera dans son armée. Et mes amis, nous pourrons alors nous tenir debout, ensemble, contre l'ennemi, en contre Satan. Et alors, vous savez ce que nous allons trouver ? Nous allons connaître ce que ce frère d'Allemagne nous a partagé. Nous allons connaître que nous sommes un en esprit dans cette armée, en esprit et en âme. Ce ne sera plus une armée divisée. Ce sera une armée où chacun peut entendre par la voix de l'Esprit Saint. Parce que nous sommes vidés, nous avons été pressés, essorés. Il n'y a rien qui attriste et qui éteint l'Esprit Saint dans nos vies. Et alors, nous saurons comment conduire notre société. Lorsque notre société a besoin de prendre une décision, nous pourrons les guider. Et ils pourront venir avec leurs questions et avec leurs arguments. Ils viendront avec leurs médecins. Mais chacun d'entre nous entendra la voix de l'Esprit Saint. Et alors nous pourrons prendre position, ce pourquoi nous devons prendre position. Nous voulons encore prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet exemple. Père Céleste, nous te remercions pour cet exemple. Et Esprit Saint, nous te remercions pour cet exemple. Aide-nous, chacun d'entre nous, qui n'avons pas encore atteint ce lieu où Josaphat était, cet endroit où il était désespéré, que nous puissions atteindre cet endroit. Que nous puissions nous humilier, nous puissions crier à toi, afin que tu puisses nous sauver. Parce que c'est ce pourquoi tu es venu sur la terre. Glorifie ton nom parmi nous, Seigneur. Et reste avec nous dans le reste de cette journée. Amen.